Eh ben, moi, je m'appelle Maxime Sorel, j'ai 33 ans, je vis du côté de Saint-Malo. Je suis à la base ingénieur en génie civil et aujourd'hui, j'exerce un autre métier, celui de coureur au large. Oui, on se prépare chacun à sa manière à vivre des moments plus ou moins durs. Défi ceux qui nous écoutent de réaliser cette opération, c'est de se doucher avec une bouteille d'eau douce d'1,5 litre et essayer de se rincer avec ça. La classe IMOCA, alors les bateaux avec lesquels on fait le tour du monde, c'est des monocoques de 60 pieds. Ça fait 18,28 m hein, en longueur. On peut parler de prix de bateau, hein. Un bateau neuf, ça vaut aux alentours des 6 millions d'euros. C'est entre 2,5 millions par an.
Salut les sportifs, c'est Armano. Après avoir pas mal échangé sur l'apnée, j'ai décidé de reprendre la série sur la voile. Pour ouvrir ce 13e casier des vestiaires, je vous propose l'interview de Maxime Sorel, skipper, coureur au large de la team VNB Mayenne et qui soutient vaincre la mucoviscidose. Ingénieur civil de formation, il se prépare enfin pour son premier Vendée Globe Challenge qui partira en novembre 2020. Le son était un peu capricieux, enfin c'est pas qu'il était capricieux, c'est simplement que Maxime enregistrait depuis son bateau qui était à quai et j'avais à cœur de vous laisser ces petits bruits de fond où l'on entend le vent souffler dans le micro, où l'on entend les mouettes qui passent au-dessus de lui, ça vous donnera un petit peu l'ambiance de l'enregistrement. Comme toujours, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je le vois notamment aux statistiques qui augmentent régulièrement et je vous en remercie énormément. Mais malheureusement, on ne touche pas assez de monde. Je planche sur plein de moyens pour pouvoir aider les sportifs en devenir et ceux en tout cas qui ont de plus en plus de mal à financer leur carrière. Et la seule solution pour pouvoir obtenir de l'aide et être visible, c'est d'enregistrer encore et toujours des records d'audience. Direction Apple Podcast, vous laissez une revue, une note, je l'espère, 5 étoiles. Vous me laissez un commentaire, ça me permettra aussi de m'améliorer ou de savoir les points que vous appréciez. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Partagez votre écoute, de me taguer et moi je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Monsieur Maxime Sorel. Salut les sportifs, vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires et je suis Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous le savez, on a déjà lancé une série avec des apnéistes, j'ai déjà reçu une jeune voileuse en la personne de Kenza Coutard. Aujourd'hui, on continue la série puisque j'ai la chance de recevoir Maxime Sorel qui se prépare. On va lui demander pourquoi est-ce qu'il se prépare, mais en tout cas, salut Maxime.
Salut à tous.
Écoute, je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Ce que je préfère, c'est laisser la parole à mes invités. Donc, ce que je te propose, c'est de te laisser le micro pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, quel âge tu as et quel est ton projet.
Ouais. Eh ben, moi, je m'appelle Maxime Sorel. J'ai 33 ans. Je vis du côté de Saint-Malo. Je suis à la base ingénieur en génie civil. Et aujourd'hui, j'exerce un autre métier, celui de coureur au large. Donc, je réalise toutes sortes de courses à la voile, à travers différents océans. Et là, on est en pleine préparation pour faire le tour du monde, le Vendée Globe en solitaire, sans escale et sans assistance.
Finalement, nous, on a vécu une période de confinement là, un petit peu mondiale pendant 2 mois. Toi, tu vas la prolonger pendant plus de temps encore en étant sur l'eau.
Ouais, c'est ça. C'est un tour du monde qui se fait généralement en un petit peu moins de 3 mois. Donc oui, c'est dans un bateau qui est pas très grand. Du moins, l'espace qu'on a pour vivre est pas très grand. Et ça peut s'apparenter à une forme de confinement, même si le confinement qu'on a subi, on l'avait pas choisi. On n'avait pas choisi la date. On s'était pas préparé avant. Chose que moi, je fais actuellement pour préparer le tour du monde, quoi.
Alors justement, on va peut-être enclencher tout de suite sur la question classique de ces derniers temps. Tu l'as dit, le confinement, on l'a pas choisi. J'ai eu à ce micro des apnéistes qui renvoient une image justement de sportifs très introvertis, très concentrés sur eux-mêmes, très dans la mouvance yoga, méditation et autres. Est-ce que un coureur au large, vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit et finalement, qu'est-ce que ça a changé pour toi le confinement?
Alors oui, forcément, c'est sûr que le fait d'avoir des courses qui durent un certain temps nous met dans une solitude. Alors qu'on soit en solo ou en double, c'est sûr que c'est pas la même, mais c'est quand même une forme de solitude où on est dans un endroit qui est pas très grand. On peut pas non plus se déplacer énormément dans cet endroit. On est tout le temps quasiment en train de faire la même chose. Donc oui, on se prépare chacun à sa manière à vivre des moments plus ou moins durs. Et pour ça, avec de la sophrologie, toutes sortes de préparations physiques, mais qui peuvent être de la préparation mentale aussi. Et c'est un peu à chacun de trouver son équilibre là-dedans. Le confinement, pour moi, en fait, il a en soi pas changé grand-chose à part m'apprendre à jardiner. Mais en fait, ça a confirmé surtout quelque chose que je savais plus ou moins sur moi-même. J'ai en fait une faculté qui est assez, on va dire, c'est un gros plus dans mon job aujourd'hui de coureur large, c'est de pouvoir me mettre rapidement dans un mode où je me pose pas trop de questions, où je suis, on va dire, dans un mode qui me permet d'avancer et de pas subir le moment présent, quoi. Et encore dans le confinement, je m'en suis rendu compte, même à terre, où je me concentre sur ce que j'ai à faire sur l'instant présent et j'essaye pas d'imaginer ce qu'il va y avoir plus tard et ce que ça va engendrer. Et je me mets vraiment dans quelque chose de très positif et de profiter de cet instant et de savoir comment je vais pouvoir vivre ces instants du mieux possible, quoi.
Alors, finalement, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de sportifs de haut niveau, cette résilience, cette faculté à se dire que finalement le meilleur reste à venir et puis on va pas se focaliser sur les problèmes actuels, on va plutôt essayer de les résoudre, mais avec un état d'esprit plutôt positif.
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que dans notre métier de coureur au large, on est vraiment soumis à beaucoup de contraintes. C'est vrai qu'on s'amuse à dire que sur l'eau, c'est une journée, une emmerde. Parfois, c'est bien plus. Et c'est vrai qu'on, le propre de notre job, c'est quand même de s'adapter aux situations. Le confinement, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on nous a dit du jour au lendemain, vous allez rester chez vous. On sait pas pour combien de temps et adapte-toi, quoi. Donc ça m'a pas vraiment perturbé. J'imagine que clairement pour des gens ça devait être très dur. Et j'ai vu des gens autour de moi, c'était très étonnant en fait, des gens qui sont à la retraite, qui ont pas forcément une vie très active et qui bougent pas beaucoup de chez eux. Et ces gens étaient perturbés par le fait de ne pas pouvoir sortir quand ils souhaitaient, alors que quand on leur donnait la liberté de le faire, ils le faisaient pas forcément, mais juste le fait de savoir qu'ils ne pouvaient pas le faire, alors là c'était une catastrophe. Et c'était intéressant de les entendre parler là-dessus, parce que ouais, ça permet d'échanger et de comprendre un peu comment chacun voit les choses.
Pour finir un petit peu sur ce confinement, tu nous as dit que ça t'avait appris à jardiner, donc j'imagine que tu as choisi de te confiner à terre et pas dans ton bateau.
Non, bien sûr. Alors, c'est vrai que le bateau de course, c'est quand même très rudimentaire. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de cabine. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de toilette à bord. Donc, on préfère être à terre quand même pour passer des bons moments plutôt que d'être enfermé dans la boîte dans laquelle je serai pendant 3 mois pendant le tour du monde. Donc, oui, j'étais à terre du côté de Saint-Malo et il y avait un jardin. J'ai appris à jardiner, même si c'est pas ma grande passion.
Quand tu dis il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, comment est-ce que tu fais d'un point de vue pratique quand tu es au large pendant si longtemps pour t'alimenter, pour faire tes besoins et puis pour te divertir, parce que une journée ça fait 24 heures, donc j'imagine que faut toujours être alerte, toujours être sur le pont. Bien sûr, maintenant vous avez des alarmes et autres qui vous réveillent en cas de problème si jamais vous vous êtes endormi, mais finalement comment est-ce que tu vis seul sur dans une espèce de caisse à savon dans laquelle t'as pas grand chose à faire?
Ouais, alors ça s'apparente, je pense que les gens qui font un peu l'armée ou qui sont déjà partis en mission pourraient comprendre ce qu'on vit. Ça dure quand même assez longtemps. On mange exclusivement de la nourriture lyophilisée ou du sous vide qu'on réchauffe, soit on fait bouillir de l'eau et on réhydrate des aliments directement dans un sachet. Ça évite qu'on ait de la vaisselle à laver. Alors pas par feignantisme, mais surtout par raison de sécurité, parce que ça nécessite d'aller chercher de l'eau de l'autre côté des filières, par exemple. Donc c'est dangereux. Et puis surtout par souci de performance. En fait, on est plus performant à régler le bateau qu'à passer son temps à faire autre chose, notamment de la vaisselle. On emmène toutes sortes de nourriture séchée, comme de la viande séchée, des fruits à coque, des noix, enfin des choses comme ça qui permettent d'avoir de l'énergie assez facilement. Après, en ce qui concerne, on va dire les besoins, eh ben on a un seau, donc on fait tout dans un seau. Moi, j'utilise des sacs à base d'algues pour éviter de salir le seau et de devoir le nettoyer. Donc on met un sac plastique sur le seau et celui-ci se désagrège au contact de l'eau. Donc ça veut dire qu'on peut pas lire son journal tranquillement aux toilettes parce que sinon le sac se dissout très vite. Donc il faut être assez rapide. Pour la douche, eh ben on se sert principalement de l'eau de mer et on se rince à l'eau douce. Alors je défie ceux qui nous écoutent de réaliser cette opération, c'est de se doucher avec une bouteille d'eau douce d'un litre 5 et essayer de se rincer avec ça. Je vous garantis que c'est pas simple. Et quand on y arrive, on se rend compte qu'en fait, on utilise quand même beaucoup trop d'eau quand on prend une douche à la maison. Ça se fait très bien au final. On arrive facilement à se doucher avec peu de quantité d'eau, et c'est vrai qu'on prend conscience de ça quand on est à bord.
Ouais, c'est comme pendant cette période de confinement, on prend conscience de beaucoup de choses quand on est confronté à situations inextricables et dont on n'a pas trop le choix.
Ouais, c'est sûr que le confinement, je pense qu'il a servi à pas mal de gens aujourd'hui en étant déconfiné de se rendre compte le bonheur que c'est de rien que d'aller se promener dans un champ ou d'aller en bord de mer ou de faire des choses qui sont au final banales et aujourd'hui, rien que ça, c'est un plaisir de le faire, quoi. Et pour revenir à la question que tu posais sur le fait de comment s'occuper pendant 24 heures, oui, alors c'est vraiment important ça de comprendre que quand on part, une journée, ça dure vraiment 24 heures. Et cette journée, on la rythme avec plusieurs choses, à la fois le sommeil, la nourriture, parce qu'on fait plusieurs micro-siestes dans ces journées et on adapte la nourriture en fonction de ces siestes. Et en fait, on est toujours actif, c'est-à-dire que plus on est présent sur le bateau à le régler et plus le bateau il va vite. Ce qui fait qu'on a quand même très peu de temps où on va dire on s'ennuie ou on va faire autre chose que faire avancer le bateau.
Du coup, pendant cette période de confinement, toi, tu as choisi de le faire à terre. Est-ce que tu as pris un peu de retard sur ta préparation ou est-ce que finalement, tu as trouvé d'autres moyens de continuer à te préparer? D'un point de vue physique, on l'a vu, il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui ont continué à s'entraîner un petit peu chez eux, même si, on le sait, les Jeux Olympiques ont été décalés. On reviendra peut-être sur les prévisions pour le Vendée Globe, si vous en avez déjà. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu as continué ta préparation pendant ce confinement sans être sur l'eau et sans être dans ton bateau?
Alors, en termes de préparation physique, oui, moi j'ai un coach depuis 5 ans, donc on a réussi à faire du télétravail, on va appeler ça comme ça, où lui me faisait mes séances. En fait, je suis pas tout le temps, et lui il est à Saint-Malo, et moi je suis pas tout le temps à Saint-Malo. Donc Saint-Malo c'est en Bretagne Nord, et mon bateau il est en Bretagne Sud. Du coup, il me fait très souvent mes séances à distance, donc ça c'était pas trop un problème. Après, je peux pas dire que je suis préparé de la même manière que s'il n'y avait pas eu ce confinement. C'est vrai que le fait d'être confiné, on marche moins, on est quand même, enfin les muscles travaillent moins, donc ils sont un peu plus atrophiés. Oui, je suis moins bien préparé, mais ça reste acceptable et on va assez facilement récupérer ce retard sur cette partie-là. Ensuite, il y a une autre partie de la préparation qui se voit pas beaucoup sur la course au large, une préparation qui est à terre, qui est presque plus administratif. Faut savoir que le Tour du Monde, c'est quasiment une des seules courses qui est sans escale et sans assistance. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter quelque part et de réparer. On est obligé de tout faire en mer. D'habitude, sur d'autres courses, on a une équipe technique qui peut venir, en fonction de la course, qui peut venir en Espagne, aux Açores, enfin n'importe où, nous aider à réparer avec du matériel. Et là, en fait, il faut imaginer tous les scénarios possibles de ce qui peut éventuellement casser ou ce qu'on pourrait réparer nous-mêmes à bord. Et tout ça, il a fallu l'écrire. Donc, on a fait des des procédures et des modes opératoires de comment réparer les choses qui, on imagine, pourraient casser et qui seraient réparables par un seul homme à bord d'un bateau, quoi. Et ça c'est un gros travail qu'on a mené sur le premier mois de confinement.
Puis j'imagine qu'il y a aussi une grosse partie anatomie. On l'a vu, certains skippers pendant le Vendée Globe il y a quelques années qui se sont blessés, qui ont été obligés de se recoudre ou de se soigner tout seul avec une assistance téléphonique. Alors maintenant, avec les moyens dont on dispose, un Skype, un Zoom ou autre, ça peut encore plus faciliter les fonctions d'un médecin à distance. Mais j'imagine qu'il y a aussi cette grosse partie-là que vous avez dû étudier.
Ouais, bien sûr. Alors ça, on a des formations hein, en médical pour apprendre. Alors on a une très grosse pharmacie à bord. On n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, chirurgien. En revanche, on se doit de savoir à quoi tout sert. Et oui, ensuite on a une assistance avec un médecin de course qui peut nous aider sur un protocole ou sur des modes opératoires de X choses qu'on pourrait avoir. Et c'est sûr que oui, faut être prêt à tout. Alors on s'entraîne pas sur soi-même, hein, à se recoudre notamment. On s'entraîne plutôt sur une patte de cochon ou des choses comme ça pour avoir cette sensation de chair et de savoir un peu comment ça se passe. Donc oui, on est formé pour ça et on est aussi formé pour la partie chaîne des secours. Qui est très importante, savoir comment ça va se passer si jamais on met en place cette chaîne des secours. On a des balises satellites à bord qui permettent de la déclencher sans forcément avoir un appel téléphonique, parce que parfois on a plus de courant à bord et donc on ne peut pas téléphoner. Et donc on a un système de balises qui met en place une chaîne des secours qui signifie qu'en fait on est quasiment plus maître de notre bateau à bord. C'est eux qui prennent en charge la récupération de façon à pouvoir venir nous sauver, quoi.
Et dans ce cas-là, j'imagine que la course s'arrête.
Ouais, à partir du moment où on a déclenché cette balise, c'est qu'on est en vraie difficulté et que le bateau ne peut plus avancer ou du moins que nous, on est blessé et qu'on ne peut plus le faire avancer. Ouais.
Très belle transition, puisque tu nous l'as dit, vous avez beaucoup de choses à apprendre en cas de besoin de réparation. Vous avez une grosse pharmacie. J'imagine que tu embarques aussi beaucoup de matériel avec toi. Tu l'as dit, beaucoup de nourriture. Et tout ça, ça implique des frais. Comment est-ce que finalement tu finances une saison? Enfin, une saison, c'est pas tellement une saison, c'est plutôt un objectif, un Vendée Globe. Sur combien de temps ça se prépare et comment ça se finance?
Ouais, on peut vraiment parler de saison parce qu'en fait on a un championnat de la classe IMOCA. Alors les bateaux avec lesquels on fait le tour du monde, c'est des monocoques de 60 pieds. Ça fait 18,28 mètres hein, en longueur. Ça fait 5,60 mètres de large. On a un mât qui culmine à 30 mètres de hauteur d'air et une quille qui fait 4,50 mètres. Donc c'est sûr que ce sont des bateaux qui coûtent assez cher. Nous, on n'a pas un bateau de dernière génération. On peut parler de prix de bateau. Hein. Un bateau neuf, ça vaut aux alentours des 6 millions d'euros. Et nous, on a un bateau qui vaut tout juste le million d'euros.
Et après, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal. Et après, en fonctionnement, ça varie en fonction des teams. Hein. C'est entre 2,5 millions par an. Et nous, on est un tout petit peu moins quand même, enfin, voire beaucoup moins. On est à peine la moitié. On est tout juste au million d'euros de fonctionnement.
Tu dis beaucoup nous et beaucoup team. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus? Parce que le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Malgré tout, t'es pas tout seul. Même si t'es tout seul dans le bateau, t'es pas tout seul dans ton équipe.
Je me suis amusé à dire une phrase, c'est qu'on n'est jamais aussi bien entouré qu'en naviguant en solitaire, en fait. Parce que oui, on a une équipe technique qui est à terre, on a des équipes de communication. Donc moi aujourd'hui, j'ai une entreprise qui gère l'ensemble de ces gens-là. Nous, on est une petite équipe de 3 personnes en technique plus moi, et on a, on va dire, entre 2 et 4 personnes sur la partie communication presse. Pour les plus gros teams, ça peut aller jusqu'à 30 personnes.
D'où ces budgets annuels un peu pharaoniques.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors pharaonique, oui. Si on compare à d'autres sports comme le vélo, la Formule 1 ou le foot, en fait, c'est dérisoire. Ouais. Les budgets sont pas énormes.
Ouais, c'est sûr que quand on voit les prix de certains transferts de foot, et notamment les derniers avant cette histoire de Corona crise, on atteignait des sommes qui auraient pu te permettre de t'acheter quelques beaux bateaux tout neufs.
D'en avoir plusieurs.
Si on fait le compte, on va pas forcément parler d'une team régulière, mais donc toi, ton bateau, c'est environ 1 million d'euros. Le budget de fonctionnement, c'est environ 1 million d'euros par an.
C'est ça.
Rappelle-nous, le Vendée Globe, c'est pas tous les ans.
Non, c'est tous les 4 ans. Donc en fait, on a des courses, on va dire des transatlantiques. Donc on traverse l'Atlantique sur différentes courses comme la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Transat anglaise, à Québec Saint-Malo, des choses comme ça. Ça, on en a une par an environ. Et donc l'idéal, c'est de se préparer sur 4 ans pour le Vendée Globe, parce que c'est quand même une très grosse course. Et donc pour revenir à l'équipe, oui, cette équipe elle est chaque saison complétée ou renouvelée en fonction des courses qu'on fait, quoi.
Donc chaque saison, c'est-à-dire chaque 4 ans quand tu prépares un Vendée Globe, ou pour toi une saison c'est une année?
Une saison c'est une année.
D'accord.
Une saison c'est une année qui a un programme plutôt solitaire ou plutôt en double ou plutôt en équipage en fonction des différents transats. Une Jacques Vabre par exemple c'est à deux, une Route du Rhum c'est en solitaire, une Québec Saint-Malo c'est en équipage, donc entre 3 et 4 personnes.
Et au final, c'est toi qui vas toujours rester le maître à bord de l'équipe. Il n'y a pas de choix qui va décider celui qui va prendre le départ du Vendée. De toute façon, c'est toi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, on peut avoir des skippers remplaçants. On va dire que celui qui est maître à bord et qui gère le bateau, c'est le skipper. Ensuite, il y a des co-skippers. Et on peut avoir des skippers de remplacement. Si toutefois le skipper se blesse ou a un problème et peut pas prendre la course, ça c'est souvent dans les gros teams. Nous on en a pas.
Bah disons que tu es ton propre skipper remplaçant, donc si tu te blesses, tu te débrouilles.
C'est ça.
Les chiffres sont quand même assez impressionnants, évidemment pas par rapport à une équipe de vélo ou par rapport au foot ou d'autres sports beaucoup plus médiatiques encore. Du coup, on revient un petit peu sur ma question du début, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer une saison et à l'extrême, comment est-ce qu'on arrive à financer un projet tel qu'un Vendée Globe? Tu l'as dit, ça se prépare plus ou moins sur 4 ans. Donc à partir de la genèse du projet où tu te dis tiens, j'irais bien faire un petit tour sur le Vendée Globe. Quel va être le cheminement pour financer tout ça?
Moi, je suis coureur au large depuis, on va dire, 2013. Et vraiment pro, où je fais que ça seulement depuis 2017. C'est vrai que la course au large, c'est pas que aller naviguer. C'est avant tout trouver des fonds, trouver des banques qui nous suivent, trouver des assurances, et puis pour trouver l'argent qui nous permet de faire tout ça, il faut forcément aller trouver des partenaires ou des mécènes avec lesquels on a tout un programme de communication et on crée une vraie histoire, hein. C'est avant tout une histoire humaine, ce qu'on crée, et c'est vrai que ça c'est le défi de tous les jours. C'est que pour pouvoir réaliser tous ces rêves là sur l'eau et faire rêver les gens, eh ben il faut trouver des fonds, et c'est pas une mince affaire, parce qu'en fait c'est aussi mon job. C'est vrai que sur les gros teams il y a cette partie là qui est un peu déléguée à des personnes qui ne font que ça. Moi aujourd'hui c'est d'abord mon rôle d'aller trouver de l'argent pour pouvoir financer ça, et c'est vrai que c'est pas simple.
C'est-à-dire si tu nous faisais une journée type d'un Maxime Sorel, en incluant cette recherche de partenaires ou alors c'est l'entretien de la relation avec les partenaires, alors j'ai pris l'échelle de la journée, mais c'est peut-être plutôt l'échelle de la semaine, du mois, de l'année, comment ça se passe?
C'est quasiment du 50-50 sur la partie hivernale. On va dire qu'on a 3 mois où le bateau il est dans les hangars et puis on le bichonne, et c'est vraiment cette partie-là qui est hyper importante pour... on revient généralement d'une course, parce que les courses se déroulent plutôt en fin d'année, donc on revient d'une course, on rend visite à nos partenaires, on leur donne du temps en relation publique pour différentes raisons chez eux, pour des anniversaires, des événements, séminaires, des choses comme ça. Donc là, on passe énormément de temps sur la route au final, parce qu'on a des partenaires qui viennent d'un peu partout. Et ça prend quasiment 100% du temps. Donc c'est beaucoup de voitures, beaucoup de temps de présence chez eux. En fait, plus on fait parler du projet Et plus ses partenaires s'y retrouvent, et plus nous, ça nous fait connaître, et plus ça donne aussi envie à d'autres partenaires de rejoindre l'aventure. Aujourd'hui, on a deux gros partenaires. On a VNB et le département de la Mayenne. Donc VNB, c'est un réseau de franchises de distribution de boissons, caves et bars. Ils ont un concept où il y a à la fois une cave et à la fois une partie bar qui permet de déguster les produits qui sont en vente dans les caves. Et puis le département de la Mayenne en fait est un peu venue aussi grâce à VNB, parce que VNB, son siège est en Mayenne. Et donc on a toute une communauté qui s'est créée un peu autour de ça, et plus un club de partenaires qui me suit déjà depuis 2013, avec plusieurs partenaires qui sont un peu tout azimut. Hein. On a des gens dans le bâtiment, des gens dans l'immobilier, on a des partenaires techniques aussi qui eux donnent du matériel, et tout ça, ça représente une vingtaine de partenaires aujourd'hui qui nous permettent de réaliser ce projet. Mais il nous manque encore du budget. Donc ma mission, elle est pas encore finie. Et en plus de la préparation du bateau, il faut aller chercher cet argent. Quoi.
Donc en plus de la préparation du skipper et du bateau, il faut aussi bichonner les comptes de la banque et aller chercher des partenaires.
C'est ça. Alors c'est sûr que la partie Covid là qu'on vient de vivre m'a pas forcément aidé sur l'ensemble de mes relations avec des prospects, parce que bah oui, aujourd'hui les gens, les entreprises font de la conservation de trésorerie, et puis bah voilà, ils ont pas forcément du budget à engager sur des projets sportifs dans l'immédiat, et donc voilà, pour le moment c'est un peu en stand-by, donc ouais, c'est la difficulté du moment.
Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé à naviguer depuis 2013, que tu es pro, enfin tu en vis depuis 2017. Finalement, pour revenir un petit peu à la genèse de Maxime le skipper, quand est-ce que tu as découvert la voile et quand est-ce que tu t'es dit que ce serait vraiment ton sport ?
Alors j'ai découvert, moi j'ai fait mes classes du côté de Cancale, donc j'étais à l'école à Cancale, et quand on est au bord de la mer en fait, on nous envoie faire 4 jours on va dire de découverte du milieu maritime et notamment du nautisme. Donc j'ai fait de l'optimiste, c'est vraiment le bateau de base, un tout petit dériveur, une petite coque de noix où on est deux dedans avec une petite voile. Et j'ai tout de suite adhéré à ce truc-là, donc j'avais 8 ans. Et derrière, je me suis inscrit au club à Cancale, et à 9 ans, je faisais de la compétition. Donc j'ai toujours fait de la voile. J'ai un petit peu mis entre parenthèses la partie, on va dire, course, régate pure pendant mes études. Parce que voilà, j'aurais pu choisir plutôt la filière nautique et faire vraiment que ça. Et j'ai préféré après mon lycée faire des études un peu longues et devenir ingénieur et avoir un travail avant de faire des plus grandes courses. J'avais pas forcément imaginé en faire ma vie, même si j'avais envie de faire des courses. Et ensuite en 2013, après avoir passer plusieurs classes, naviguer sur vraiment beaucoup de bateaux, commencer un peu la course au large avec un skipper qui était des Côtes d'Armor, qui m'a fait découvrir un peu le milieu. En 2013, je me suis décidé à faire la route du Rhum, qui est la traversée de l'Atlantique en solitaire entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, qui était un beau projet, et puis on va dire qui était un projet qui me faisait rêver, parce que moi je suis de Saint-Malo et que j'ai vu forcément étant gamin plein de coureurs au large partir de Saint-Malo et aller rejoindre les Antilles. Donc voilà, c'était plus un rêve que vraiment un souhait de vouloir avoir une transition entre mon job et le métier de coureur au large. Et de là, en fait, j'ai rencontré l'entreprise VNB, qui m'a accompagné sur cette première aventure Route du Rhum 2014. Et derrière, ils ont décidé un peu d'aller encore plus loin. Donc, je leur avais proposé un projet forcément un peu plus grand. Donc, on était en classe 40, les plus petits bateaux de la course au large. Ça fait 40 pieds. Ça fait 12 mètres 18 de long. C'est 6 mètres de moins que le bateau actuel. Et je leur ai proposé de construire un bateau qui n'existait pas. On est parti d'une feuille blanche avec un architecte. Et ils ont signé, donc on a fait 4 années en classe 40, où on a fait toutes les courses qu'on pouvait faire.
Mais du coup, j'imagine que ton premier besoin de financement, et tu l'as dit finalement en rencontrant VNB, il s'est présenté en 2013 quand tu as décidé de faire cette route du Rhum. À l'époque, tu avais déjà financé de façon personnelle ton projet ou c'est vraiment VNB qui a apporté le maximum du financement?
Alors en fait non, VNB sont arrivés 3 semaines avant le départ de la route du Rhum, ou un mois tout juste. Donc on avait déjà commencé à avoir pas mal de partenaires, de par mon métier d'ingénieur en génie civil. Avant de me lancer déjà dans ce projet, j'avais un peu sondé des fournisseurs, des clients même de mon job, savoir si bah eux ça les intéressait de me suivre et comment ils pourraient m'aider là-dessus. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de gens en fait qui adhéraient vraiment au projet, qui trouvaient ça sympa d'avoir un gars avec qui ils travaillent au quotidien, qui se lance un défi de faire une traversée atlantique en solitaire. Et du coup, c'est là que je me suis dit, si j'y vais pas maintenant, j'y irai jamais. Donc, j'ai créé une association. Et avec cet asso, je suis allé voir des banques, leur dire, j'ai un projet, je veux faire la route du Rhum. En revanche, il me faut un bateau pour pouvoir trouver des partenaires, parce que sinon, j'ai rien à vendre. Il faut acheter un bateau. Le bateau à l'époque coûtait 120 000 euros, le classe 40, et donc il fallait que j'emprunte de l'argent. Sauf que l'asso, elle venait d'être créée une semaine avant que j'aille voir le banquier, et il m'a dit c'est un peu compliqué, l'asso n'a pas d'argent, comment on fait? Et du coup je lui ai dit j'ai de l'argent que j'ai investi sur ce projet, donc j'ai aussi des partenaires qui ont signé des comme une sorte de compromis d'engager de l'argent sur ce projet. Et il s'est passé en commission et notre banquier il a vraiment fortement appuyé parce qu'il trouvait ça un peu génial, un peu fou, mais assez réaliste au final. Faut savoir convaincre les gens d'y aller. Et c'est vrai que sans avoir mis de l'argent sur la table, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'a démarré un peu cette aventure avec des bouts de budget, des petits partenaires, des moyens. On n'avait pas de nom de bateau et VNB est venu un peu au dernier moment pour prendre le nom du bateau. On a aussi, j'ai souhaité associer ce premier projet à une cause qui est l'association Vaincre la mucoviscidose, une association qui m'était un peu cher parce que j'ai connu en fait un patient de cette maladie, la muco, qui était un voisin, et on a œuvré étant gamin pour cette association, et donc je me suis dit pourquoi pas la mettre en avant sur ce projet qui lui a de l'ampleur médiatique, et donc on a démarré comme ça avec un bateau qui s'appelait Vaincre la mucoviscidose, et VNB est arrivé sur le tard pour prendre le nom et compléter le budget et le boucler.
Une belle première histoire.
Ouais, une belle première histoire, ouais. Où moi, quand je suis arrivé en Guadeloupe à la fin de cette course, sur une place qui était plutôt honorable par rapport au bateau qu'on avait, et du coup, j'avais pas forcément imaginé derrière ce qui allait se passer. Moi, je devais reprendre mon travail. J'avais 3 mois de congé en retard, donc du coup, que j'ai soldé avec ce projet. Et au mois de janvier, je reprenais le boulot et VNB m'a dit on va pas s'arrêter là. Je dis moi, faut que je retourne bosser, les gars, au mois de janvier. Donc faut qu'on trouve une solution, mais pour l'instant, je vais bosser. Et sur début 2015, le nouveau projet s'est construit comme ça et on a lancé la construction d'un bateau et on a embarqué tous les magasins VNB avec nous pour faire un plus gros projet, quoi.
Mais du coup, les ravitaux, ça devait être sympa sur le bateau quand tu cherches un petit peu de quoi changer les idées. Il y a de quoi boire avec un partenaire comme ça.
Ouais. Alors même si je suis pas leur meilleur client, on va dire, c'est vrai que pour la préparation sportive, c'est pas hyper conseillé. Mais en tout cas, je peux vous garantir que à l'arrivée, on sait fêter ça.
Tu l'as dit, t'as fait une place honorable pour cette première expérience. Qu'est-ce qu'un skipper a à offrir à ses partenaires en dehors de l'image que tu véhicules par le nom du bateau, quelques marques qui apparaissent sur les voiles, mais pour un plus petit partenaire, tu l'as dit, tes partenaires principaux là pour ce Vendée Globe, c'est VNB et c'est le département de la Mayenne, mais il y a tout un pool de partenaires, une vingtaine à peu près, qui participent au budget du bateau, enfin de l'équipe. Qu'est-ce que tu peux leur offrir en contrepartie, si ce n'est de s'engager dans un projet qui les fait vibrer?
Déjà, ça c'est énorme. C'est vrai que sur la partie, on va dire, communication interne de ce que peut faire un partenaire avec ça, malgré tout, elle est assez importante parce que suivre un bateau sur une carto qui avance au quotidien et emmener tous ses salariés à suivre ce bateau, ben c'est quelque chose qui est assez magique. C'est vrai que les gens peuvent nous suivre en live sur une carte et tous les jours quand ils se lèvent le matin, ils se disent putain mais le gars il est ça fait 10 jours qu'il y est, il est encore dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on envoie des news à tous nos partenaires qui sont un peu exclusifs et c'est vrai que ça embarque énormément les gens d'une entreprise. Pour les embarquer encore plus, on leur propose de venir naviguer à bord. Donc d'emmener des salariés, alors soit ils font des challenges en interne chez eux avec les commerciaux ou autres, ou pour les plus petites boutiques, on peut embarquer carrément toute la société. Et quand les gens sont venus voir ce qui se passait à bord d'un bateau, juste une navigation de 2 heures proche des côtes, quand la mer est plate et qu'il y a un tout petit peu de vent, ils se rendent compte de ce que c'est d'aller plusieurs jours dans des mers formées, des choses qui n'imaginent pas forcément en voyant juste les images. Et je le disais tout à l'heure, c'est une vraie aventure humaine. C'est vrai que moi j'aime partager cette passion, j'aime les embarquer avec moi et je leur consacre beaucoup de temps, et ça c'est vrai que c'est un plus par rapport à d'autres sports où clairement dans le foot on n'a pas trop accès aux sportifs, on n'a pas trop accès à ce retour là. On voit rarement les footballeurs aller dans les entreprises qui les sponsorisent. Nous on a un rapport aux sponsors qui est un peu différent. Et ensuite on a toutes sortes de choses à proposer hein, autour de ce bateau, au-delà du fait que oui c'est déjà un grand panneau publicitaire qu'on peut un peu déplacer partout sur les océans et sur les mers, et c'est vrai que l'aventure elle est dingue quand on s'inscrit sur une course, qu'on est au départ de la course, qu'on vit la course pour un peu qu'on ait envie d'aller l'accueillir, le bateau à l'arrivée. C'est juste magique de voir le bateau apparaître comme ça proche des côtes, et ensuite avoir le retour de l'équipage ou du skipper qui est embarqué. C'est assez dingue. En tout cas, je conseille à plusieurs de venir voir ce qui s'y passe.
Quelles sont les retombées pour toi, skipper, enfin pour l'équipe en général, sur une course comme le Vendée Globe? Est-ce que vous avez des primes de course suivant la place que vous réalisez, ou est-ce que c'est juste pour le plaisir que vous faites tout ça?
Bah, globalement la course au large c'est vraiment pour le plaisir. Je peux vous donner, j'ai gagné la Transat Jacques Vabre en 2017, donc qui est la traversée de l'Atlantique entre Le Havre et le Brésil. C'était à Salvador de Bahia. Donc ça c'est une course qui est en double. Pour s'inscrire à cette course, il faut payer 10 000 euros. Donc généralement l'inscription elle est forcément couverte par le budget de fonctionnement, donc c'est les partenaires qui le payent. Et la prime pour avoir gagné cette course, donc on est deux à bord, c'est 8 000 euros, ce qui fait qu'on l'a divisé en deux, donc on a eu 4 000 euros. Par rapport au coût de préparation, par rapport au temps de préparation, par rapport à l'engagement qu'on y met, par rapport au risque, c'est que dalle quoi, c'est rien du tout. Et c'est à peu près la prime qu'on retrouve sur l'ensemble des courses, que ce soit en solitaire ou en équipage. Le Vendée Globe en revanche lui est la course la plus primée de la course au large. De mémoire, le gagnant de cette course doit recevoir une prime aux alentours des 200 000 euros, qui est déjà une belle prime. Mais ça n'a rien à voir avec rien qu'un salaire de footballeur par exemple, ou d'une prime de Roland Garros ou dans le basket, enfin bref, c'est ce qui rend la course au large très humain, très accessible. C'est que clairement on fait pas ça pour l'argent, et qu'on aime raconter cette passion parce que c'en est vraiment une quoi.
Tu l'as dit, même si le Vendée Globe est une course qui prime le plus, 200 000 euros au regard d'un bateau à 6 millions, une saison régulière à 2 millions par an et une préparation qui dure 4 ans, forcément, c'est vraiment anecdotique.
C'est sûr. Après, à titre perso, vu qu'on gagne pas beaucoup d'argent, si on reçoit un chèque de 200 000, on est très très content.
Bon, j'imagine qu'après, tu dois quand même le redispatcher au niveau de l'équipe, non ?
Ouais, forcément. C'est une victoire en solitaire, mais sans l'équipe, on n'est rien. Donc oui, bien sûr. Généralement, ce qui est fait, c'est que on divise, par exemple, sur une course en double, et ben on fait 33% pour chaque équipier et puis 33% qui est divisé par le nombre de préparateurs.
Revenons sur le Vendée de cette année quand même, parce que c'est ce qui nous occupe actuellement. Est-ce que vous avez déjà une vue sur le maintien de la course ou sur un report de celle-ci en raison des conditions sanitaires actuelles?
Mais là, on est un peu plus fixé avec ça. Aujourd'hui, l'organisateur du Vendée Globe nous a informé que dans tous les cas, il y aurait un départ le 8 novembre. Alors, sauf s'il y a une grosse vague d'épidémie juste sur la période de départ du Vendée. Mais sinon, le départ sera bien le 8 novembre 2020. Pour se préparer au Vendée Globe, en théorie, sur cette saison 2020, on devait avoir deux transatlantiques. Une première qui partait de Brest, qui allait à Charleston, et une autre qui partait de New York et qui allait au Sable d'Olonne. Donc ces deux transatlantiques forcément sont annulés puisque on ne peut pas aller aux États-Unis. Et pour pallier à cette annulation, on va réaliser une autre course au mois de juillet, départ des Sables d'Olonne. On va aller virer un point en Islande, qui est au niveau du cercle polaire arctique. Et on va revenir en passant par le nord des Açores au Sable d'Olonne. Donc ça, c'est une course en solitaire et qui va permettre de rentrer dans le cadre de la qualification pour le Vendée Globe pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Nous, on l'est.
Toi, c'est que du bonus. C'est pour te réhabituer à naviguer.
C'est pour s'entraîner, pour valider des choses sur le bateau, ce qui est déjà très important. Mais en termes de qualification, on n'a pas de stress là-dessus.
Pour se qualifier, pour ceux qui ne le sont pas, comment ça se passe un petit peu la règle pour la qualification au Vendée Globe ?
Alors la règle de la qualification au Vendée Globe, c'est de finir une transat en course, de réaliser au moins 2000 milles en solitaire. Ça représente un peu moins de 4000 km.
Vu que tu as 4 ans pour le préparer, c'est relativement faisable.
Ouais, alors nous on n'a pas eu 4 ans, le projet a démarré en janvier 2019, donc on n'a pas eu 4 ans, hein, c'est 27 mois de projet jusqu'à mars 2021.
Mars 2021 avec un départ en novembre, donc vous prévoyez un peu plus que 3 mois de transat et puis après un mois pour faire la fête?
Non, ouais, c'est ça. Non, alors le projet il s'arrête pas juste quand on a fini le Vendée Globe. Le bateau, il est pas à nous. Le bateau, en fait, j'avais trouvé un investisseur pour acheter ce bateau, qui nous le loue. Donc du coup, le bateau, il a été acheté par quelqu'un à qui on loue le bateau. Et donc, comme un appartement, il y a un état des lieux et on doit rendre le bateau dans le même état qu'on l'a eu en début de location. Et pour soi, on se donne un mois de chantier en fait pour rendre le bateau au propriétaire.
On avance dans l'interview. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Pour terminer, j'aime bien poser quelques petites questions à mes invités. Alors ce que je te propose, c'est soit des réponses tac au tac très vite, soit de prendre un peu plus de temps comme tu l'entends. Ça te va ?
Ouais, parfait.
Déjà, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui était très intéressé, très passionné par la voile et que il avait en ligne de mire effectivement ce graal de la navigation qu'est le Vendée Globe. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ?
Bah, il faut vivre ses rêves, donc forcément d'y aller et de pas trop réfléchir parce que c'est sûr que ça peut faire peur.
Si tu pouvais te transformer en un tout petit Maxime Sorel, tout petit, pour pouvoir te parler à l'oreille du Maxime Sorel qui avait 6-7 ans, tu nous as dit quand t'as commencé la voile, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil ?
De continuer à rien lâcher et de profiter de chaque instant aujourd'hui de ce qu'on me permet de vivre et de ce que je me suis permis d'aller chercher.
Quel était le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné, que ce soit dans la voile, dans le boulot ou perso?
Ouais, c'est plutôt boulot, je pense que rien n'est jamais acquis et que on obtient rien sans travailler. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut rien lâcher et il faut tout donner, quoi.
Ouais, génial. C'est marrant parce que tous les sportifs que j'ai eu l'occasion d'interviewer finissent toujours un peu sur cette note d'optimisme, mais que en tout cas le talent c'est bien, mais le talent n'est rien sans le travail.
Bah ouais, complètement. Ouais. C'est sûr que nous dans la voile, en fait, vu que c'est un sport mécanique, ça se voit énormément. C'est-à-dire que on peut mettre le meilleur navigant sur le meilleur bateau. On est toujours dépendant d'une pièce éventuelle qui peut casser. Et la course au large, c'est pas juste la navigation, c'est toute la partie gestion de projet qui est hyper importante, quoi. Alors soit on a une très bonne équipe et donc du coup, le skipper n'a pas besoin de gérer ça en amont. Mais en revanche, une fois sur l'eau, la gestion des événements, elle est hyper importante, quoi. Et ça voilà, quoi. C'est la motivation et l'envie. L'envie, encore une fois, qui fait que si on l'a pas, on a beau être le meilleur, on n'y arrivera pas, quoi.
Une question que je t'avais pas posée pendant cet épisode, pour travailler justement tous ces imprévus, est-ce que vous essayez de reproduire des situations en naviguant ou même à sec, et notamment, je sais pas, une casse de mât? Comment est-ce qu'on simule une casse de mât? Comment est-ce qu'on simule une casse mécanique sur le bateau?
Alors, on simule plus des réparations, c'est-à-dire qu'on a une pièce, on imagine une pièce qui va casser. Et comment on va la réparer? Eh ben oui, en laboratoire, parce qu'en fait parfois on est en pleine mer, il y a de l'eau qui arrive sur le pont, et ça va nous gêner pour pouvoir réparer cette pièce. Donc oui, en laboratoire, dans un atelier, on va simuler cette réparation pour être sûr que les produits qu'on emmène, eh ben, ils vont bien se mélanger avec l'eau de mer et que ça va pas engendrer d'autres problèmes, quoi. Donc oui, on le fait. Ouais.
Vous le faites en labo, vous simulez les conditions, tu as le tangage, tu as l'eau qui arrive.
Alors, pas tout, comme dans
une soufflerie.
Mais pas tout, mais oui, il y a certaines choses qu'on fait. Ouais.
Écoute Maxime, merci encore. Allez, une dernière question juste avant de te laisser partir, et celle-ci, elle me tient vraiment à cœur. Je la pose à tout le monde. Vous pouvez nous donner le nom d'une sportive ou d'un sportif qui aimerais-tu entendre sur ce podcast?
C'est pas évident, ça.
Francophone quand même, hein, puisque le podcast est francophone.
Un surfeur français, on va dire. J'aime bien le surf. Jérémy Florest, tiens.
Ok, écoute, je relève le défi. J'essaierai de le contacter. Et puis, si j'y arrive, je te ferai passer son épisode. Comme ça, au moins, quelques épisodes de podcast, ça te permettra aussi d'occuper tes journées pendant la course.
Je compte bien en embarquer, d'ailleurs. Il faudrait que tu me les fournisses.
Écoute, je t'enverrai quelques recommandations.
Super.
Merci beaucoup. Pour terminer, si jamais on veut suivre ton exploit, si on veut te suivre toi personnellement, si on veut continuer la discussion et te poser quelques questions, quel est le meilleur moyen?
Alors, il y a un site internet qui s'appelle teamvnbmayenne.com. Sinon, sur les réseaux sociaux, Maxime Sorel, ou les réseaux sociaux teamvnbmayenne, Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, vous avez toutes les infos. Pendant le Vendée Globe, il y aura une carto à dispo et vous pourrez suivre l'évolution du bateau et lire toutes les newsletters.
Ok, de toute façon, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Maxime pour le temps que tu nous as consacré. Je te souhaite bon courage pour la fin de la préparation et puis pour la course. Et de toute façon, on suivra tout ça avec attention.
Merci, à très bientôt.
Merci, ciao, ciao. Vous êtes encore là? Génial, c'est que vous avez apprécié cet épisode. Je ne saurais vous remercier autrement que si vous mettez un petit message sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast. Je me ferai un plaisir de vous y répondre personnellement et d'engager la conversation avec vous. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!